Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Patrice Geoffron, professeur à Paris Dauphine et membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Alors, les rencontres d'Aix, c'est le 5-6 juillet, oui. Je crois. Voilà. Enfin, Gervé Lorenzi m'a déjà écrit en m'alertant sur le fait qu'il fallait être là. Alors, évidemment qu'on sera là comme tous les ans, qu'il ne s'inquiète pas. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus. Ça fait longtemps que vous êtes secrétaire général de Croissance Plus.
Oh, pas tant que ça, mais j'ai eu de la promo. Plus de boulot. Bon.
Et puis, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue, on a souvent raconté ici ce que sont les écoles Espérance Banlieue. On n'en parle pas assez d'ailleurs dans les médias des écoles Espérance Banlieue. Hein.
Absolument.
C'est assez rare. Je suis persuadé que si vous dites ça, vous faites un sondage. Que sont les écoles Espérance Banlieue? Je pense que les gens ne savent pas.
Absolument.
Bon. On parlait donc des efforts à faire en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je résume votre pensée, vous me dites si j'ai bon, Patrice Geoffroy, puis je ferai réagir avec Xavier Timbaud. Nous devons absolument accélérer nos efforts de manière à réduire notre dépendance aux importations d'énergie fossile qui nous coûtent une fortune.
Exactement.
Bon. Ok.
Voilà, 116 milliards d'euros en 2020.
Ça, c'est quoi le 116 milliards d'euros ?
C'est la facture énergétique. Pétrole et gaz pour l'essentiel, avec évidemment une explosion du prix du gaz. On y reviendra puisqu'il est à la baisse maintenant.
On était à 22 euros le mégawatt-heure le week-end dernier aux Pays-Bas.
Et on était à 15 fois plus à certains moments en 2022. Donc cette dépendance, elle est délétère. Et donc je pense qu'il faut inverser le raisonnement. Généralement, on considère qu'il faut réduire des tonnes de CO2 parce que, on en émet depuis deux siècles, on a une responsabilité spécifique. Et à ce moment-là, il y a un contre-argument qui arrive généralement qui consiste à dire oui, mais est-ce que tout ça a du sens
si en fonction
de ce que fait la Chine, ce que fait l'Inde. Mais, il faut se convaincre, et c'est ce que nous ont appris douloureusement les six dernières années, depuis la crise des Gilets jaunes, c'est qu'on est très, très, très fragile. À chaque fois, ça conduit l'État à intervenir assez massivement. Sur les 1 000 milliards de dettes qui ont été accumulées depuis une bonne dizaine d'années, on peut en sourcer une partie qui correspond à différents chocs qu'on aurait amoindris. Crise des Gilets jaunes, crise Covid, et puis évidemment nos ennuis avec Vladimir, si on avait été moins dépendant de nos importations de pétrole et de gaz.
Ce qui me frappe dans votre réflexion, Patrice Geoffron, c'est que vous ne m'expliquez pas que l'enjeu final, c'est de sauver le monde, mais c'est déjà de sauver notre porte-monnaie. C'est pour des raisons économiques que des raisons environnementales que vous me...
Moi, j'ai passé 20 ans à dire l'inverse.
Comment ça, à dire l'inverse ?
À mettre en avant, comme beaucoup de collègues, la dimension environnementale et à considérer que par ailleurs on allait créer des emplois verts, etc. L'expérience est en train de prouver que ça ne nous permet pas d'aller suffisamment vite. Si j'étais ailleurs que sur cette chaîne hautement honorable, je dirais qu'on en a assez, on a un certain nombre d'en avoir assez à pisser dans un violon, je ne l'ai pas dit. Mais de fait, c'est un peu la sensation. Donc il me semble qu'à la fois tactiquement, mais également parce que c'est fondé économiquement, on a tout à fait un intérêt à considérer ce que les économistes appellent, jargon à nouveau, les co-bénéfices. Donc agir pour le climat, qu'est-ce que ça produit chez nous ? Eh bien, ça produit chez nous notamment beaucoup d'indépendance. C'est quand même des choses qu'on avait vues très bêtement. On est peut-être au moins deux à s'en souvenir ici dans les années 70.
Absolument.
C'est des questions de sécurité d'approvisionnement et qui coûtent des milliards.
Non, mais vous êtes un agitateur d'idées en disant ça et j'apprécie. Comment vous réagissez à tout ça, Xavier ? Je disais tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, vous êtes probablement parmi mes invités celui qui est foncièrement le plus préoccupé au fond de lui par l'avenir du monde et de son environnement et de son climat.
Ok.
C'est l'impression que vous me donnez.
Oh, il y a match. Hein.
Vous avez que des boomers en fait dans votre émission. À part moi.
Ça vous inspire quoi ?
Non, mais parce que je suis pas le seul à être préoccupé.
Il y a une
centaine. Votre panel est pas très bien échantillonné sur la population de la France. Hein.
Je fais quand même parler une centaine de voix par an cette émission, ce qui est absolument un record pour une émission d'actu quotidienne de talk show.
Et des voix qui sont tout à fait honorables.
Trouve que parmi ces voix, vous
faites. Ils sont remarquablement intelligents.
Mais très sympathique, Xavier.
Mais oui. Non, mais je trouve que parmi ces voix, vous faites partie de ceux qui.
Je le pense.
Et comment vous réagissez à ce que nous dit aujourd'hui Patrice Geoffroy?
Moi, j'entends ce qu'il dit.
Il y a un côté storytelling aussi dans sa façon de raconter l'histoire, et c'est peut-être pas du tout inintéressant.
C'est pas du tout inintéressant, et je pense que c'est un argument qui est important. Bon, je pense pas qu'il se substitue à l'argument climat, mais en tout cas, il l'empêche pas. Donc,
il est destiné à produire les mêmes effets.
Moi, je le prends, cet argument, sans réserve.
Selon la façon dont vous expliquez quelque chose, vous obtenez un résultat ou un autre, quelquefois.
Oui, c'est vrai. Bon, ok, mais soit. Mais la question, c'est pas celle-là. La question, c'est pas chercher des arguments pour qu'on le fasse, c'est comprendre pourquoi on le fait pas. Alors, on pourrait dire, on l'a pas fait parce qu'on avait pas les bons arguments. Mais je crois pas.
Pourquoi on va pas assez vite, vous voulez dire?
Oui, pourquoi on va pas assez vite? Pourquoi on recule? Pourquoi? Et en fait, moi, ça m'inquiète. Pour trois raisons.
Prime rénov, pesticides, ZFE, bonus, voilà. Tout ça, ça vous inquiète?
Trois raisons. Il y a la première raison, bon, il y a une question budgétaire là qui est en train d'émerger, on va peut-être en parler
pour
les questions sociales, mais il y a du rabot. Et effectivement, à Bercy, même si à Bercy, on est très engagé sur les politiques environnementales aujourd'hui, quand on arrive à gratter un milliard, on gratte un milliard, quoi. Après, on verra l'année prochaine. Donc, il y a quand même cette... On pouvait avoir le sentiment, après le quoi qu'il en coûte, après les engagements d'Emmanuel Macron sur le climat, que de ce côté-là, il n'y aurait pas de limites. En fait, on se rend compte que si, il y a des limites. Mais ce n'est pas le plus grave. En fait, le plus grave, il y a deux choses qui conduisent à l'échec. La première, c'est qu'on n'est pas capable de répondre aux contestations. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas d'accord, ça détériore ma situation », on ne sait pas quoi faire.
C'est vrai.
Mais même à commencer par lui expliquer, mais en fait non, ça détériore pas ta situation.
Ah ben si, parce que lui, il va arriver avec sa facture du mois précédent.
Mais non, je suis désolé, mais quand vous voyez des agriculteurs qui vous expliquent que leur problème, c'est la taxe sur le diesel non routier, et qu'ils viennent avec leur tracteur à Paris, mais vous savez qu'ils ont dépensé en essence pour venir à Paris.
C'est démago, hein.
Mais c'est pas du tout démago. Ils ont dépensé en essence.
Oui.
En essence pour venir à Paris. Plus que le surcoût que représente la diminution de la taxe sur le gazole non routier pour un mois.
C'est possible, mais...
D'accord. Ok, très bien. Bon. Donc déjà, ça c'est la première chose, on ne sait pas répondre,
on ne sait pas répondre, donc on recule, voilà.
Donc on recule, première chose. Deuxième chose,
ah oui, on ne sait pas faire les politiques. GNR, c'est vrai dans ma liste, je le rajoute.
Deuxième.
Xavier est courageux parce qu'on est à moins d'un kilomètre du salon de l'agriculture.
C'est ça.
Oui, c'est vrai qu'on est tout près.
Oui. Vous voulez que je donne l'adresse Deuxième point qui est quand même...
Alors, Xavier au 06.
Deuxième point qui est très très inquiétant, c'est en fait l'administration qui est capable de donner des objectifs, qui est capable de faire des analyses qui sont elles aussi très solides et très intéressantes et très pertinentes, n'est pas capable de mettre en place des politiques. Le leasing social, c'en est un exemple, c'est un désastre. On arrive avec un dispositif...
Un succès ?
Non, c'est un désastre. On arrive avec un dispositif qui est mal calibré. On est
13 000 euros par voiture, on n'allait pas laisser ça open bar, on ne peut pas. 13 000 euros par voiture.
Qui a décidé qu'il fallait mettre 13 000 euros par voiture ?
C'est le bonus.
Et pourquoi mettre 13 000 euros par voiture ? Pourquoi se mettre un coût d'abattement du carbone aussi élevé ? Parce que c'est ce que ça veut dire.
Je me souviens de la démonstration du membre du SAC de la semaine dernière. C'est extraordinaire la démonstration qu'il nous a faite. C'était Lionel Fontanier, il y a 15 jours. Incroyable. Il nous a tous bluffé avec une démonstration. Combien ça nous coûte à la tonne ? C'est délirant.
C'est délirant.
Délirant.
Mais comment on fait un dispositif comme ça qui est délirant, qu'on se dit au bout d'un mois, en fait, on n'avait pas prévu, mais on a multiplié par deux notre objectif de l'année en 4 semaines. Et comment ça se fait que dans l'administration, il n'y ait personne qui ait pu s'en rendre compte? Et
qu'on est obligé capable de nous dire... sortir des prix planchers 60 ans après la PAC.
Non mais, dans quel monde on vit? Qu'est-ce que c'est cette administration qui n'est pas capable de proposer des dispositifs qui fonctionnent?
Vous croyez que c'est l'administration qui a tout corseté ou c'est juste...
Ah mais peut-être que c'est le politique qui a imposé les 13 000 euros à l'administration. C'est presque pire dans ce cas-là.
La mécanique, je ne peux pas...
Ouais. Il y a un vrai problème. Je veux dire, si on fait des politiques comme ça, qui sont des politiques de gribouille, vous voyez, c'est d'un côté on dit oh là là, il y a le changement climatique, il faut réduire les émissions, on met un dispositif délirant qu'on arrête au bout d'un mois en disant ah ben non, on s'est
Xavier,
dans les calculs.
Si c'est délirant, il y a un moment, il faut mieux arrêter et de reconnaître qu'on comme le DPE, vous savez très très bien que c'était mal fagoté, qu'il fallait faire quelque chose.
Très bien d'arrêter un dispositif
et
délirant.
Et pourtant, il y a le DPE, il y a bien des gars géniaux qui ont réussi à pondre cette idée complètement farfelue avec des éléments qui s'opposent.
Non mais c'est très bien d'arrêter un dispositif délirant quand il est délirant, mais Enfin, il faut quand même pas oublier qu'il y a quelqu'un qui l'a pondu, ce dispositif délirant. Et que c'est celui qui l'arrête qui l'a pondu.
Et vous connaissez le théorème d'Alain Madelin, hein. En politique, entre le machiavélisme et la connerie, choisissez toujours la connerie.
Ouais, non, mais c'est, mais là, on est XXL, hein, quand même.
Ah, c'est qu'à parfois, oui. C'est
on vrai. Est XXL parce que, enfin, je veux dire, c'est quand vous mettez en place un dispositif comme ça, hein, et que derrière vous l'arrêtez au bout d'un mois, votre crédibilité, elle est égale à zéro. Comme par ailleurs, dès d'accord. qu'il y a quelqu'un qui crie ça m'arrange pas cette histoire, vous reculez, votre crédibilité, elle est pas non plus très augmentée.
Complètement d'accord.
Alors, non, mais ça compte. Bah, je veux dire, tout ça, au bout du compte, ça fait quoi ? Ça fait que ces politiques pour provoquer la transition, pour réduire la dépendance aux énergies fossiles, pour réduire nos émissions, elles demandent d'avoir des politiques qui sont intelligentes, acceptées, qui sont conduites sur le moyen terme, avec persistance, pédagogie. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Le contraire. Le contraire, on fait des politiques qui ont un mois de durée de vie. Mais enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ?
Que Madelin a raison.
Et on dépense 10 milliards, 20 milliards pour le bouclier tarifaire. Et après, on dit qu'il n'y a plus d'argent.
8 milliards pour subventionner le pétrole.
Enfin,
la facture, en plus, l'INSEE avait regardé les 8 milliards pour aller gratter 20 centimes à la pompe. Allez, en gros, ça faisait entre 90 et 100 euros par automobiliste.
Sur et la ça, c'est, une, c'est deux questions. C'est une double incompétence politique, en fait. C'est-à-dire pas de capacité à pouvoir élaborer des politiques et à les assumer et à les conduire et à les affiner, s'il le faut, au fur et à mesure de leur application. Et pas de capacité de faire accepter ces politiques.
Non, mais je suis...
C'est embêtant, hein.
Non, mais...
C'est embêtant.
Vous êtes... Je mets un élément supplémentaire. Est-ce qu'on est encore dans du gribouille en allant chercher 10 milliards en grattant les tiroirs de l'État pour essayer de passer par décret pour éviter le Parlement avec une loi de finances rectificative qui, de toute façon, verra le jour à l'été, visiblement. Et maintenant, c'est le coût des dépenses sociales. Il y a plein, bon, je vais pas vous refaire la liste, l'indemnité chômage, la CSG des chômeurs, les ALD, les pensions indexées ou pas indexées en 2025, des allocations familiales à nouveau. Durci en termes de conditions de revenus. Par rapport à ce qu'on s'est dit, ça vous inspire une réaction, Laurent Wonski ? Et peut-être en rajoutant mon histoire de dépenses sociales ?
Ben je vais apporter un témoignage empreint de concrétude, parce que dans d'autres pays, nous avons des gens qui pensent, ils font que penser, c'est très bien. Puis après, il y a des gens comme moi qui pensent un peu, et qui sont obligés de faire beaucoup. Bon, et je pense que pour que la pensée soit enrichie, il faut penser, il faut faire, il faut apprendre de ses erreurs, il faut repenser, etc. Sur le constat, est-ce que oui ou non, on doit vite réduire les émissions de carbone ? Enfin, je veux dire, c'est comme être pour la paix dans le monde. Évidemment, on est tous pour. Bon, il n'y a pas besoin d'être un grand penseur pour savoir qu'il faut le faire. La question, c'est, je pense qu'il faut mettre en place comme un plan Marshall. Et pour faire un plan Marshall efficace...
C'est l'argent public, un plan Marshall, non ?
Absolument. Mais il ne faut pas rêver. Hein. Je pense qu'on ne pourra pas, dans les temps qui sont impartis, avec l'urgence qui est impartie, là, on n'est pas dans le temps très long. Je veux dire, il y a une vraie urgence. C'est-à-dire que si on meurt guéri, on aura perdu. Et un thème qui revient inlassablement depuis maintenant à peu près un mois et demi, deux mois, c'est le thème de la simplification. Alors, c'est un thème chapeau, mais je vais prendre un exemple très simple que je connais bien, c'est le nôtre, parce que je partage certaines des convictions qui ont été développées sur ce plateau. Je pense qu'il y a un aspect géopolitique qui est absolument considérable et qui a été sacrifié depuis à peu près 50 ou 60 ans à l'autel de la politique court-termiste. Et il faut savoir que si aujourd'hui on crée une situation de dépendance sur une matière première qui est fondamentale, aujourd'hui c'est le gaz pétrole, mais demain ça peut être les terres rares, ça peut être beaucoup de choses, eh bien notre pays ne sera plus du tout indépendant et va devenir un vassal ou un esclave d'une autre puissance. Donc ça, j'espère que dans cette transition que nous allons vivre, j'espère que justement quelqu'un aura quelque part cette vision géopolitique qui nous permettra d'éviter de troquer un nœud coulant pour un autre. Donc ça, c'est la première chose. Nous nous sommes intéressés, nous pensons qu'en clair, on va rentrer dans une période d'énergie rare. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de demandes et qu'on a un outil industriel, notamment les centrales nucléaires, qui est vieillissant. Et on voit les difficultés qu'on a
en ce moment qu'il y a deux ans. Hein.
Oui, c'est mais oui. On l'a réparé.
Oui.
Et si vous voulez regarder la difficulté qu'on a à faire pousser des EPR, donc c'est pas quelque chose qui va se faire en instantané. Donc nous, fort de ces deux constats, on s'est intéressé à devenir autosuffisant en électricité. Il n'y a pas 50 solutions, hein, on est Argenteuil. Bon. Donc on a regardé. Pour notre entreprise, quels étaient les coûts et quelles étaient les lois pour mettre des panneaux solaires. Mais c'est une caricature administrative. J'oserais dire, c'est pas cadeau, mais le problème principal, il n'est pas au niveau du coût. C'est n'importe quoi au niveau des règles. Et si vous voulez, tous les exemples qui ont été cités depuis un mois et demi, et on peut remercier les agriculteurs, l'exemple le plus connu des Français, c'est celui des haies, mais je vous invite en tant qu'entreprise à regarder les lois pour mettre des panneaux solaires. C'est débile. C'est-à-dire que si vous les mettez sur votre toit, c'est quelque chose. Si vous faites des ombrières, c'est autre chose. Si vous les mettez comme si, c'est autre chose. C'est un casse-tête. Ça donne mal à tête à une aspirine. Donc je pense qu'une des solutions, déjà, il va falloir faire un plan Marshall accéléré, c'est-à-dire faire des choses rapides et efficaces et arrêter la technocratie à outrance. C'est-à-dire d'avoir des fonctionnaires qui ne pensent qu'à faire des lois et après avoir des fonctionnaires qui pensent qu'à les contrôler. Et plus on va complexifier le système, plus on va ralentir le déploiement. C'est urgentissime. Ça ne touche pas que la transition énergétique, ça touche l'agriculture, ça touche la production, ça touche l'implantation industrielle, et c'est un thème récurrent. Et ça, je pense que c'est une condition sine qua non pour une transition énergétique accélérée.
La simplification, on n'en a jamais autant parlé. Alors, il y a une loi qui va arriver. J'espère que cette fois-ci, il y aura vraiment des...
J'espère qu'elle sera simple.
Oui. J'espère qu'il y aura vraiment des éléments constitutifs. Juste, Xavier Timbaud, sur les dépenses sociales, c'est logique, il n'y a pas 10 000 solutions, il va falloir en passer par là, parce qu'il est un peu minuit moins 5, on a beaucoup de dettes, on a plus de la moitié de la recette d'impôt sur le revenu qui part en remboursement des intérêts de la dette, on a des engagements qui ont été pris au niveau européen, et on a des marchés sans lesquels nous ne pouvons pas fonctionner au jour le jour, donc on va envoyer des gages, quitte à aller chercher de l'argent sur les ALD ou les allocations familiales.
Oui, en substance, c'est ça. On sort d'une période, le quoi qu'il en coûte, où on a été très généreux. Donc, qu'on revienne à la normale et qu'on en profite pour raboter un peu, sachant qu'il y a quand même un peu de baisse de chômage, etc. Bon, ça peut s'entendre. Ceci étant dit, il y a
baisse de chômage, plus tellement.
Bon, elle a, oui, mais il y a eu une baisse de chômage par rapport à il y a quelques années.
D'accord.
Bon, donc ça peut justifier un certain nombre de choses. Après, il y a quand même un élément qui n'est pas sur la table, enfin en tout cas un qui a été mis sur la table comme étant un point indépassable, c'est le fait de ne pas augmenter les impôts.
Mais en fait...
Et en fait,
ils augmentent sans que ça se voit.
Alors, mais c'est ça le problème.
Si je vous fais la liste des dépenses fiscales... Quand vous passez un bonus de 5 000 à 4 000 euros...
C'est un double problème, ça.
C'est pas une hausse d'impôts, mais vous...
Parce qu'en fait, vous dites, je peux pas augmenter les impôts. Alors, pourquoi vous le dites? Vous dites, je peux pas augmenter les impôts parce que la France aurait le taux d'imposition le plus élevé du monde développé.
Bah, c'est déjà le cas avec le Danemark, selon les
années. Mais a déjà parlé 50 fois.
Oui, il y a une partie de prélèvement obligatoire qui est du revenu différé.
Et donc, je vous renvoie à une étude de France Stratégie il y a 3 ans, qui calcule les taux d'imposition quand on enlève la partie retraite, qu'est-ce qu'on a ? On a la France qui est pile dans la médiane des pays européens. Bon, voilà, je mets ça juste à titre de réflexion. On peut pas dire, on ne peut pas augmenter les impôts parce qu'on a les impôts les plus élevés du monde. On a les impôts qui sont dans la moyenne.
La France, elle dit qu'il faut une taxe mondiale, un impôt minimum sur les milliardaires.
Oui, non, mais ça, sans doute.
J'ai 20 de Sao Paulo, là.
Sans doute. Mais bon, ok, en tout cas... La première chose, c'est qu'on dit qu'on ne peut pas augmenter les impôts parce qu'on a des impôts trop élevés. Ce qui n'est pas vrai. De l'autre côté, on se dit, on va raboter sur les dépenses sociales, même si c'est compliqué à faire comprendre. Ce qui ne va pas aider à faire accepter les politiques par ailleurs, mais bon, ce n'est pas grave. Et puis par ailleurs, on se dit, on ne peut pas augmenter les impôts, mais on va quand même le faire un petit peu en douce par... tout ça, ce n'est pas une politique qui conduit à pouvoir être libre de faire de la justice sociale. Oui, c'est-à-dire que tout ça, c'est du bricolage. Vous avez à Bercy des gens qui sont très très forts.
On n'est pas en train de remettre en cause la redistribution monétaire. Enfin, elle est bien toujours là.
Mais on la bricole. On la bricole dans un pays qui est sous tension. Moi, je suis pas sûr que ce soit très malin. Bon. Voilà, je suis pas sûr que ce soit très malin. Je pense que si on mettait les choses un peu à plat et qu'on disait, voilà ce qu'on fait, il y a des tas de choses qui seraient très acceptables. On pourrait baisser les APL si on disait aux gens qui payent des APL, mais regardez, ceux qui payent des impôts, ils en payent. Alors que là, quand on baisse les APL, ceux qui payent des APL, enfin, qui reçoivent plus les APL, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, en plus, on baisse les impôts des riches. Mais c'est compliqué d'expliquer aux gens, vous êtes pauvres, on vous enlève 5 euros d'APL, et effectivement, on va supprimer l'ISF. Comment vous expliquez la logique qu'il y a derrière?
Je vois bien l'histoire. J'explique la logique qu'il y a derrière sur le fait qu'il y a un moment, il fallait retrouver des niveaux de fiscalité impôt par impôt qui soient à peu près compétitifs par rapport à des pays qui nous ressemblent.
Non, mais Nicolas, si...
On ne peut pas avoir un IS à 33 ou 34 pendant des années quand on retombe à peu près en moyenne à 25, 24, non?
Enfin, oui, mais là, vous me ressortez un peu l'argument, on a un taux d'imposition plus élevé que les voisins, et moi, je vous dis, le problème, c'est que cet argument, il est faux. Voilà, alors le problème, c'est que si vous construisez votre justice sociale sur des arguments qui sont faux, moi, je vous promets une catastrophe.
Vous voulez réagir à ce qu'a dit notre ami Xavier Thimbaud ?
Oui, oui, moi je peux réagir.
Bon alors, pas trop long, parce que je voudrais aussi qu'on dise un mot du Qatar, là, je voulais en parler hier. Mais bon.
Ah, la concision est l'âme de l'esprit, donc je vais être concis.
C'est vrai que généralement, vous savez aller droit au but, tous d'ailleurs, mais sauf alors, quand vous n'avez pas envie.
Alors moi, j'ai des sources un peu différentes de vous, Xavier, c'est pas l'étude France Stratégie. Moi, j'ai une étude tous les mois où je dois payer l'URSSAF, tous les trois mois où je dois payer la taxe ci, la taxe là, et puis...
C'est la concrétude.
La concrétude et le grand moment que nous attendons tous, c'est-à-dire en clair la fin d'année ou l'exercice fiscal où là, on sait globalement ce qu'on va payer comme IS. Alors, je pense que, la France, je veux dire, tous les producteurs de richesse le savent, je veux dire, il y a une imposition qui est absolument démesurée, et en dehors de l'idée même de savoir, je dirais, si c'est juste ou pas, si on se compare par rapport à nos voisins, moi je suis en concurrence avec la planète, hein, et donc je vois bien les différences et les distorsions de compétition qui sont dues notamment à des éléments de taxation. Les impôts de production, je connais par cœur depuis 35 ans, ça fait 35 ans que ça dure. Donc il y a un vrai souci, mais à la limite, et c'est un argument que j'ai souvent avancé, parce qu'on le vit tous, si nous avions des services publics 5 étoiles, si tout marchait presque bien, si vraiment, je dirais, on pouvait se féliciter de la justesse de cet argent dépensé, je dirais, ok, c'est cher, mais on en a pour son argent. Le seul problème, c'est que c'est très cher et on n'en a pas du tout pour son argent. Donc, il va falloir simplifier, réformer. Et j'ai peur que, et je suis assez d'accord avec vous, quand on fait dans l'urgence, généralement, c'est pas terrible. Mmh. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive au bout de l'histoire et qu'il va falloir changer beaucoup de choses très vite. Et j'espère qu'on va pas faire des grosses bêtises.
Réaction juste de Boris qui me dit « Ce qui est vrai par contre, Xavier, c'est que ceux qui payent des impôts en France sont moins nombreux qu'ailleurs et ce n'est pas de la justice sociale. » Pas complètement faux non plus.
Alors si, c'est malheureusement faux parce que... ce à quoi votre auditeur...
Oui, la TVA, tout le monde la paye, la CSG
c'est l'impôt
aussi.
Sur le revenu. Mais oui, mais la CSG, c'est deux fois les recettes de l'impôt sur le revenu. Et c'est la même base fiscale que l'impôt sur le revenu.
Mais on pourrait dire que les actifs, tout ce qui est cotisations qui font partie des prélèvements obligatoires...
La CSG est payée par les inactifs aussi.
Oui, la CSG, mais les prélèvements, les cotisations, c'est pas... Enfin, moi, je considère la CSG comme un impôt, plus comme une cotisation.
Les prélèvements et cotisations qui restent sont les prélèvements retraite.
Votre avis là-dessus, Patrice Geoffrand.
Depuis le début de l'émission, on parle de finances publiques sous des angles différents.
Oui,
et moi, j'ai un peu de mal à déconnecter l'ensemble. En fait, j'ai une seule idée, je la tisse et j'essaie de la tisser depuis des années. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe ni de sujet ni d'ordre de grandeur. Encore une fois, le choc de 2022, c'est 700 milliards d'euros pour l'Europe entière. L'entrée en guerre et avec des tensions qui sont sans doute durables. Et ça a été un impact un peu partout en Europe. Et là, on est en train de gratter les ordres de grandeur dont il est question. Là, c'est 10 milliards qu'on recherche de ci, de là. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de continuité dans la pensée, premièrement. Deuxièmement, il nous manque, et je parle sous ton contrôle, c'est-à-dire une macroéconomie des temps chahutés. Par exemple, le milliard là, sur le soutien à la rénovation.
La prime rénov, oui.
Si finalement ça permet de gagner des sous à Bercy, pourquoi pas ? Mais j'en suis pas du tout certain. Encore une fois, si le prix du gaz remonte, si le prix de l'électricité continue à monter, s'il y a à nouveau un choc, à ce moment-là, il va falloir remettre des boucliers. Je suis pas du tout certain que le milliard en question soit vraiment un milliard qui réduise la tension sur les finances publiques. Et donc, si on n'a pas de continuité dans ce domaine, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Et là, on va s'empailler sur les quelques milliards dont il est question là, qui de fait sont à peu près dans l'épaisseur du trait, mais qui peuvent avoir des effets absolument considérables, parce qu'évidemment, on est dans une société qui est sous tension. Et donc, si on n'a pas le recul sur l'analyse, encore une fois, de ce qui nous a été préjudiciable en termes de dette publique au cours des 10 dernières années, à ce moment-là, on perd le fil du récit. Et on ne sait pas quoi faire.
J'entends dans ce que vous dites que, comme on n'aura pas le temps d'évoquer tous les sujets, mais vous avez vu, pourtant, je fais des efforts. J'évite de donner trop de sujets en intro pour ne pas me retrouver avec une liste de 25 trucs que j'ai annoncés et qu'on n'a pas traités. Non, là, j'ai des progrès à faire par rapport aux autres, là, c'est vrai. Mais j'entends que vous ne croyez pas à l'idée qu'on serait sur une baisse durable et définitive des prix de l'énergie. Parce que moi, quand j'ai vu ce que l'AIE a dit, ce que GRT Gaz ont raconté, je me dis, mais c'est plus le même monde. Et la demande baisse, et on va probablement avoir un contre-choc énergétique. J'ai l'impression que j'ai pas forcément...
Oui, il faut pas gâcher une bonne crise. Enfin, ce qui s'est passé avec Vladimir doit nous édifier. Donc là, on est en train de passer d'une dépendance à l'égard de la Russie, à une dépendance à l'égard des États-Unis. La Biden a mis des moratoires sur des capacités d'exportation de GNL. Les Républicains hurlent à l'encontre de ça, mais si Trump arrive au pouvoir, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il fera du gaz une arme de pression sur l'Europe.
Oui, mais j'ai vu par exemple qu'on est en capacité de sortir 12 TWh de biogaz désormais.
Oui, oui. Alors on est dans
ce sont deux réacteurs nucléaires.
Alors, c'est tout à fait remarquable. Il faudrait faire x10 très rapidement.
Oui, oui.
Et si on parvenait d'ailleurs à faire x10, à ce moment-là, on serait plutôt à x15. On produirait en France chez nous, avec notamment des déchets du monde agricole, à peu près l'équivalent de ce qu'on importait de Russie auparavant. Donc ça, c'est un vrai projet de politique publique. Je ne suis pas certain qu'on ait les soutiens dans ce domaine qui soient à la hauteur de l'enjeu.
Vous voulez réagir, Xavier Tabou ? Je ne sais pas sur quoi exactement.
Juste sur ma prime rénov, oui. Le milliard économisé, c'est assez édifiant. Il n'est pas économisé pour des raisons budgétaires. Il est économisé parce que
par ailleurs, oui.
La procédure est trop compliquée et qu'il n'y a plus personne qui se présente pour faire ma prime. Bah voilà.
Il est économisé parce qu'il ne sera pas consommé.
Mais oui. Donc, mais,
et parce qu'il n'y a pas non plus assez de réparateurs RGE.
Là, c'est invraisemblable. L'économie qu'on fait, elle n'est même pas délibérée.
Ouais, non.
Elle est par incompétence et par trop de complexité, par des
dispositifs. Il y a trois choses. Il y a le manque de rénovateurs RGE. Il y a la complexité que vous décrivez qui fait que c'est décourageant. Et puis il y a aussi le nouveau schéma de MaPrimeRénov 2024 où elle est vraiment intéressante et rehaussée pour les rénovations globales. Mais avec des restes à charge qui, même s'il y a une prime rehaussée, restent trop importants pour beaucoup de ménages. On a une 50. Bon, bah, allez-y, Laurent. Bah, dites ce que vous voulez, parce que je ne peux pas vous lancer sur autre chose, parce que ce n'est pas la peine.
Ça, au moins, c'est simple.
Bah oui, 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 oui.
Je voudrais vraiment insister sur l'aspect géopolitique, hein, parce que pour moi, c'est quelque chose de très, très préoccupant. On voit que les choses s'accélèrent. C'est le retour de la guerre en Europe. Et si vous voulez, si je suis un petit peu impertinent, je vais dire que depuis 50 ans, j'ai l'impression qu'on a été frappé d'angélisme. On pense qu'on était dans un club de gentlemen et qu'on allait juste, on a laissé changer les marchés. On allait se parler de l'avenir du monde, etc. Et que les guerres, les affrontements du passé, je veux dire, ça appartenait aux reliques. Mais absolument pas. Si vous voulez, oui, les États-Unis, que je pense bien connaître, oui, c'est un allié, mais c'est avant tout un pays qui gère ses propres intérêts. Et je pense, puisqu'on parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui, c'est un petit peu à toutes les sauces, c'est un petit peu le mot chapeau.
On le met partout.
Il y a clairement des sujets où, je dirais, notre État doit, si vous voulez, se préoccuper pour qu'on ne soit pas des vassaux des autres. Et l'énergie en fait partie. Et là, dans la transition énergétique, je trouve qu'il y a une opportunité extraordinaire, il y a un rendez-vous avec l'histoire, de repenser les choses pour éviter ce qu'on vient de vivre depuis 50 ans, où en clair, nous avons été les esclaves des pays producteurs d'hydrocarbures. Donc, il faudrait faire un truc vraiment intelligent. On avait une chance extraordinaire avec le nucléaire. Je rappelle aussi que nous avons nous-mêmes auto-torpillé nos capacités nucléaires pendant des décennies, où on a sacrifié à l'autel politique, je veux dire, le nucléaire. Donc là, il est fondamental qu'on devienne relativement indépendant énergétiquement, parce que nous ne sommes pas entourés de gentlemen et de gens bienveillants qui veulent simplement, je dirais, la paix dans le monde et notre prospérité. Il faut essayer de... C'est la fin de l'angélisme.
On aime votre émission car vous avez des personnes intelligentes qui ont le temps de parler. Voilà. Ben voilà. Et donc c'est pas grave si vous n'avez pas traité tous les sujets. C'est vrai que c'est pas grave.
C'est gentil.
Non, parce que je pense que...
Et on reviendra. On revient demain. On va finir la liste.
Oui, bah, la liste, c'était le Qatar. Le Qatar plus les 10 autres que j'avais mis dans ma petite liste du matin.
Le Qatar, il y avait quand même un truc intéressant.
Hein. Bah oui, c'est dommage.
Oui. Bah, je me suis écharpé avec Jean-Marc Daniel là-dessus hier. Bon, allez, on arrête parce que là, c'est pas possible. C'était donc Patrice Geoffroy pour le Cercle des économistes. Xavier Timbaud, vous revenez, j'ai une date, Xavier, on se revoit au mois d'avril. Ouais, c'est tard, hein. Et puis Laurent Vronsky, on se revoit avant, je crois. Bon, super. Allez, à demain, 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.